Alors ça, si ça vous remue pas au trip, vous êtes un robot. Hein. Franchement, merci Alexandre. À chaque fois, moi, ça me met les poils, vraiment, ce titre-là. Et puis merci à toute la bande des Barn Guys, bien sûr. L'album Love Introspection que vous pouvez vous procurer dans toutes les meilleures Camry et également auprès des musiciens intéressés, bien sûr. Marc Mitou, Florian Robin, Laurent Choubrac, Didier Fleury, Alexandre Le Sueur. Et à signaler les choristes Océane Perrette et Maëva Launay qui interviennent sur ce titre et ailleurs également. Voilà, on poursuit, on se remet un petit peu de nos émotions tranquillement. On est en deuxième heure déjà de Sweet Home Chicago. Tout à l'heure, on aura notre invité au téléphone, Mig Tokro. Mais en attendant, retour au disque du mois. C'est toujours Living in a Burning House, le dernier album de Selwyn Birchwood, dont je vous propose tout de suite un nouvel extrait avec le titre album.
Smelling smoke, and I know something's burning, but I'm just too scared to look. If I close my eyes and ignore all the warnings, I won't have to know the truth. My heart says leave, but my legs won't let me. I can't bring myself to leave my home.
Voilà, vivre dans une maison enflammée, ça ne doit pas être évident. Et je pense qu'il y a vraiment un sens caché à ce titre-là. À réécouter avec attention donc cet album de Selwyn Birchwood, disque du mois pour Sweet Home Chicago. On est bien ensemble sur le 666 jusqu'à 15h, avec juste après le titre qui vient notre invité du jour, à savoir Mick Tokro. Mick Tokro qui fait ses débuts sur scène à 16 ans comme guitariste de divers groupes de rhythm and blues. Il travaille quelques années plus tard au légendaire club de Critters, donc sur Bordeaux, où comme beaucoup de musiciens de sa génération, il apprend presque tout à l'écoute et au contact des plus grands. Alors, on lui parlera tout à l'heure de Jimmy Rogers, de Lazy Lester, de Philip Walker, de Lonnie Mack, etc. Ce sont des gens qu'il a côtoyés, qui sont venus aux Critters. En 2002, Mick Tokro reçoit le trophée France Blues du meilleur chanteur et bassiste et contrebassiste. Et la basse et le contrebasse sont devenus ses instruments de prédilection, tout en accompagnant nombre de sérieux performers comme Curtis Salgado, Frank Goldwasser, Sean Pitman ou encore Paul Orta. Il a créé donc Loretta and the Bad Kings en 2006, ensuite les Three Gamberos et par la suite en duo sous le nom de Backlanders de Louisville et puis maintenant avec Tiger Rose. Donc seul sur scène ou en duo électrique ou en trio, il mélange son blues rocailleux avec sa country dans un style vraiment épuré. Une guitare, une voix, c'est tout. C'est pas le cas de ce disque Tiger Rose qu'il partage donc avec Lady Loretta. Lui, il fait de la guitare, Mick Tokro, il fait du chant bien sûr, et Lady Loretta, c'est la contrebasse. On écoute Brown Eyed Man, une composition de Mick, et juste après, on l'aura au téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions sur le Facebook Sweet Home Chicago. Voilà, c'est un extrait de cet album de Tiger Rose qui s'appelle Boogie Blues and Roots, donc signé Tiger Rose, le duo avec Mick Tocro et Loretta, Mick Tocro guitare, chant, Loretta contrebasse. Et je suis au téléphone avec Mick. Comment ça va, Mick?
Ça va nickel, ça va et ça marche.
Bon, écoute, super, surtout quand on peut parler en direct à des gens aussi talentueux et sympas que toi, par exemple. Non, t'es pas le seul, il y en a d'autres. Mais voilà, petit point météo, quel temps il fait sur Bordeaux, la banlieue de Bordeaux en ce moment?
Dégueulasse.
D'accord, c'est normal. On est juste au mois de février. Cet album de Tiger Rose qui vient de sortir m'amène à te poser tout plein de questions. D'abord sur ta vie, ton œuvre et puis tes débuts. Alors, j'ai lu tout à l'heure, je l'ai dit à l'antenne, hein, c'est officiel, que tu as fait tes débuts sur scène à 16 ans. Donc, ça remonte à quoi? 2000, 1990, 1980, 1970.
C'était l'année dernière.
Voilà. Et donc, est-ce que tu es content d'être bientôt majeur et de pouvoir voter en 2022? C'est la question suivante, du coup.
Majeur, oui, content de voter, je sais pas.
Voilà, donc ça fait un petit moment qu'on te voit sur les routes, enfin en tout cas moi sur les routes, et puis pour les Bordelais, dans tous les endroits où il y a des bonnes choses qui se concoctent. Et j'ai égrené tout à l'heure la liste de tes groupes, alors j'en ai forcément oublié, dont peut-être le tout premier, le plus important au départ, je veux parler de Shake on Shake. C'était ton premier groupe, Shake on Shake?
Non, c'était pas mon premier groupe. C'est le premier avec qui j'ai fait mes premiers cachets de musicien, vrai.
Ouais.
Et puis c'est comme ça que j'ai découvert aussi un club à Bordeaux, le Cricketers, où j'ai appris la moitié de ce que je suis aujourd'hui en regardant les Américains jouer.
Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure en rappelant ta bio juste avant le morceau. Jimmy Rogers, Lazy Lester, Philip Walker, Lonnie Mack. Mais il y a trois points de suspension derrière et il y a près de 347 noms de bluesmen qui se succèdent.
Oui, et puis des Français aussi. Ouais. Hein, il ne faut pas l'oublier, il y avait pas mal de Français, d'Européens, qui venaient, des Anglais, des Belges, qui étaient vraiment des musiciens au top, et qui sont toujours d'ailleurs dans ces pays-là, il y a toujours ce qui se fait de mieux en Europe. Et voilà, c'était très enrichissant, et puis ça, comment dire, ça rend humble.
Hein, voilà. Ouais, côtoyer des gens comme ça. Petit mot peut-être pour le patron de l'époque. Ça a été ouvert et fermé en quelle année le Cricketers? Ça fait partie. C'est une institution, hein.
Ça a ouvert au milieu des années 80 et ça a fermé exactement en 1998.
Et depuis 1998, il y a quand même des endroits. Ça fait déjà plus de 20 ans. Il y a des endroits où on peut se produire sur Bordeaux. C'est une ville que tu qualifierais de branchée blues ou pas spécialement?
Il y a toujours eu un public blues. Des endroits pour jouer vraiment, non, il n'y en a pas énormément. Hein. Depuis la fermeture du Cricketer, c'est du Jimmy qui était des vrais clubs. Mais bon, c'était une autre époque aussi.
Ouais.
Mais non, il n'y a pas énormément d'endroits pour jouer à Bordeaux. Mais il y a toujours eu un public. Et puis, on a quelques associations très actives, comme Aller les filles, par exemple, qui font un des plus gros festivals d'Europe, qui est très peu connu, qui est le Festival Relâche, qui dure 6 mois d'année.
Alors, oui, Festival Relâche, moi, pour avoir assisté à quelques soirées, c'est vraiment formidable, parce que pour une entrée libre, on peut aller voir des artistes qui se produisent habituellement dans des grandes salles. Moi, je me souviens de Sugar Ray. Il y a des choses vraiment formidables dans cette programme.
Et puis des choses avant-gardistes, et puis aussi des Français, toujours.
Bien sûr.
En première partie, en milieu de partie, et puis des grandes scènes, quand ça commence à être des groupes important. Je pense à Alexis Evans, des gens comme ça.
Tout à fait.
Qui n'ont pas été lancés par ça, mais qui... Enfin, c'est un festival important qui donne sa chance, et c'est un peu à l'image de ce qui se passe à Bordeaux. Je pense que ça tient plus aux passionnés, aux associations, qu'à tous les endroits. Il y a un bon endroit, le Télonews, il y a deux, trois autres endroits, mais ça reste une grande ville. Dans les grandes villes, on a tous un point commun, les musiciens, c'est... on n'est jamais payé dans les grandes villes,
ah bon,
ou très mal, donc on va jouer ailleurs.
Oui, alors, on dit nul n'est prophète en son pays, mais quand même, Mig, ton nom est connu parmi pas seulement les amateurs de blues, quand on programme tes groupes, parce que tu fais partie de plusieurs groupes, rappelons-le, il y a forcément du monde qui vient.
Oui, il y a du monde, et j'en suis très content.
Il y a des fidèles, fidèles depuis des années, il y a aussi des nouveaux, il y a des petits jeunes, comment est le public sur Bordeaux? Est-ce que c'est un peu mixte tout ça?
Ouais, il y a un peu tout, puis il y a surtout une nouvelle génération fabuleuse à Bordeaux. Je pense à Thibaut Rico qui joue avec Théo Lorenz, Bastien avec qui on avait un groupe ensemble, les Lightning Rockets, et Alexis, et puis il y a plein d'autres encore. Ils donnent envie à des jeunes aussi de venir, parce que toujours voir des vieux croulants sur scène, quand on voit des jeunes faire cette musique très très bien, c'est sûr que ça attire plus des publics de leur propre âge, quoi.
Voilà, toi qui.
Et puis le talent n'attend pas le nombre des années, hein. Certains de ces jeunes-là, à 20, 21 ans, ils mettaient déjà la claque. Sans avoir plus besoin d'expérience que ça.
Je crois que c'est le principe de tous les grands. De toute façon, si on regarde un petit peu la vie des bluesmen qu'on admire, que toi et moi et d'autres, ils étaient doués dès le départ, non ?
Bah exactement. Hein. Si tu penses à Johnny Guitar Watson, par exemple.
Ah oui, par exemple, oui.
Voilà, bah, Johnny Guitar Watson, je suis même pas sûr qu'il avait l'âge de boire de l'alcool quand il commençait déjà à avoir des problèmes de foie, donc... c'était un gérant, un grand chanteur, un grand guitariste, un grand showman surtout. C'est qu'un exemple de plein d'autres. Nos idoles sont souvent très très jeunes.
Alors on parle des Français, on parle des Américains. On parlera tout à l'heure de l'album que tu sors avec Loretta qui s'appelle Boogie Blues and Roots. Je crois que rarement un album a été aussi bien nommé. mais quand même, d'abord peut-être une question sur le nom du groupe, Tiger Rose. Pourquoi Tiger Rose ?
Oh, je m'en rappelle même plus.
Bon, bah écoute, la question.
Voilà, on ne voulait pas un groupe avec The quelque chose.
Oui, c'est et, pas deux, mais voilà, ça commence quand même par un T. Donc Tiger Rose, alors on a un grand tigre qui rugit là sur la pochette, un petit peu façon cirque. Hein, c'est l'image, c'est l'image que tu voulais donner.
Oui, je pense que oui, parce qu'avec les années, en fait, ça va faire un peu vieux briscard, mais peu importe la taille du groupe ou les gens avec qui tu joues, moi je trouve que. En tout cas, Laurette et moi, on a plutôt tendance à penser qu'il faut vraiment faire de plus en plus plaisir aux gens, avoir le sourire, faire les choses de manière enjouée, enthousiaste, parce qu'on a beaucoup de chance de le faire déjà. Mm-hmm. Et donc, ça a finalement un côté un peu troubadour, ménestrel, quoi, d'essayer de porter un peu la musique et du baume au cœur à tous les gens. Donc, voilà, c'est un peu le principe d'un cirque, c'est né, essayer de renvoyer un peu les yeux, les oreilles.
Il y a plein de points communs, déjà, un groupe il est forcément itinérant, il ne peut pas jouer toujours au même endroit tous les jours. Effectivement, et puis c'est un spectacle avant tout. Tu conçois le blues, et du moins la musique que tu produis, avec Loretta, tu conçois ça d'abord comme un spectacle ou comme un concert ?
Je suis d'accord,
c'est une question là qu'on j'efface.
Je sais pas la différence. Je pense que ça n'a pas toujours été le cas, mais je pense aujourd'hui qu'il faut absolument, comment dire, c'est dur à expliquer.
Non, je vais traduire la question. En fait, ça voulait dire derrière, est-ce que ça doit être visuel forcément, ou est-ce que finalement, comme écouter un disque, ça suffit ?
Moi, je pense que c'est un tout. Je pense qu'on est, on donne ce qu'on a. Si t'es à 100% dans ce que tu fais et que t'es sincère, que tu te poses pas de questions, il y a forcément du spectacle à la clé. Forcément, parce que tu donnes tout ce que t'as. Après, les gens le reçoivent plus ou moins bien. T'as plus ou moins de succès. Mais comme quand tu refais par exemple une reprise de quelqu'un que tu aimes bien, quel que soit le genre, à la fin, si t'es sincère, ça donne vraiment une partie de toi et pas que la chanson originale. Ouais. Et voilà, c'est pareil. Ouais. Il faut tout donner. Et puis si ça fait un spectacle avec quelques trucs en plus, quelque chose de préparé aussi pour que ça reste intéressant, tant mieux. Mmh. Mais bon, à force de jouer dans les petits endroits et les grands endroits, tu trouves des trucs et puis tu les gardes, d'autres tu jettes. Et puis au fur et à mesure, tu as l'expérience de faire devenir un concert un peu un spectacle.
Toi qui as vu beaucoup de concerts, et notamment beaucoup de Français et aussi beaucoup d'Américains, soulignons-le, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont influencé ? Alors je ne parle pas en termes de musique, ni en termes de style, mais plutôt en termes de, justement, comment mener un spectacle, comment se fringuer, comment parler aux gens ?
Alors, les fringues, plus trop. j'ai eu ma période, comme tous les minots, à vouloir être sapé à quatre épingles. Mais moi, je dirais qu'avec... Alors, il y en a plein qui m'ont influencé. Mais ma dernière grosse baigne de ce côté-là, c'est le feu Mike Ledbetter, avec qui j'ai eu la chance de tourner. C'est grâce à Fabrice de Soit, qui est un des batteurs-tourneurs principaux en France. Et ça a été un pur plaisir pendant 2 ans de faire des dates dans une tournée d'un mois avec Mike Welch et Mike Ledbetter. Et là, ça a été la grosse baigne quand même. C'est même pas le côté que chaud à l'américaine. C'est quoi qu'il arrive, être à 200%, tout donner, transpirer, se poser aucune question et qu'il y ait 10 personnes devant ou 1000, c'était quelque chose à vivre, des frissons tous les soirs.
Ouais, Mike
Ledbetter, c'est une bonne leçon.
Mike Ledbetter qui nous a quittés beaucoup trop tôt, hein, qui était né en 85, rappelons-le, et qui faisait corps avec Monster Mike Welch, en fait, et dont la voix n'avait absolument aucun rapport avec le physique. C'était étonnant de l'entendre chanter et de voir la tête qu'il avait, enfin, un chanteur noir dans un corps de blanc, quoi, c'est un peu ça. Voilà, le blues contemporain, on s'était vu, souviens-toi, il y a quelques années.
Hein. Il était à moitié noir.
Il était métis, ouais. Souviens-toi, on s'était rencontrés, on s'était vus il y a quelques années, c'était au Bain de Blues chez Patrick Lecacheur. Oui. Et justement, tu jouais, tu tournais avec Curtis Salgado et Monster Mike Welch. Oui. D'ailleurs, je me souviens, je vous avais servi de taxi pour aller de l'hôtel au festival, c'est très marrant. Voilà, ce sont parmi tant d'autres des musiciens que tu as accompagnés. Parmi les autres, il y a Johnny Sanson, Frank Goldwasser, Paul Orta, Sean Pittman. Donc tu vois, il y a des Français aussi.
Greg Heiser, que je continue toujours à accompagner. Bah voilà, c'est un grand chanteur harmoniciste aussi qu'il faut vraiment faut compter avec lui. J'espère que.
Tu peux répéter le nom, s'il te plaît.
Greg Heiser,
voilà. Heiser, ouais.
c'est, je pense, un des meilleurs chanteurs harmonicistes actuels au monde maintenant. Et il écrit ses propres chansons depuis très longtemps. Il fait des super disques. Sur scène, c'est une tuerie. Et un grand ami de Lazy Lester, etc. On l'accompagne de temps en temps avec Thibaut Ripo et Bastien Cavezon, qui jouaient dans les Possums et Théo Lawrence. Et il va y avoir quelques dates cet été, et je pense que ça va être cool.
Bah oui, justement, Greg Heiser, j'ai vu que sur ta page, enfin ton site internet Mic Prod, il y a toute une page consacrée à lui. J'ai vu également que tu allais venir du côté de Cognac si le festival a lieu au mois de juillet.
Non.
Non. Alors c'est une erreur, ou c'est un fantasme, ou c'est une confusion.
J'aimerais bien, mais a priori, non.
Non, c'est pas bâché comme ça. Bon, ben écoute.
Non.
Donc tu parles de cet été. Il y a déjà des dates prévues ou bien?
Tout est un peu en suspens. Donc on verra.
Alors, on parle pas trop date de concert, mais on peut quand même évoquer l'année qui vient d'écouler. Comment est-ce que tu l'as vécu avec Loretta et comment est-ce que, j'allais dire, vous avez pu rebondir justement pour la création de ce duo Tiger Rose? Qu'est-ce que vous avez foutu en 2020? C'est ça la question.
Déjà, moi j'ai eu en tout 57 concerts annulés. Donc ça fait un peu mal, c'est sûr, quand on est habitué à jouer beaucoup. Mais on a eu la chance avec Lorette d'avoir des bonnes réactions de disques qu'on a sorti à la rentrée dernière. Et on a fait des belles dates cet été, quand même pas nombreuses, mais quelques-unes. C'était les premières, il fallait bien aussi se lancer en duo. Et c'est que des bonnes surprises, que des bonnes réactions. Ça nous a mis du baume au cœur et du coup, on a eu beaucoup de temps. Ben, moi, j'ai écrit plein de chansons et on est en train en ce moment de finir le deuxième album. Voilà, on enregistre. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a enregistré et on continue à écrire des chansons et ça devrait sortir, je pense, à la rentrée prochaine.
Voilà. Bah très bien, donc voilà, des gens qui ne restent pas deux pieds dans le même sabot, enfin c'est la plupart des artistes qui font ça de toute façon.
Bah, c'est aussi pour ne pas péter un plomb. Hein.
Bah, on est bien d'accord, le travail ça, quand même, ça occupe l'esprit, et en l'occurrence quand le travail et le plaisir riment avec l'amour,
exactement,
comme c'est votre cas, c'est d'autant plus on va dire profitable pour tout le monde, et surtout pour vous, j'ai envie de dire. Petite question par rapport à cet album, mais question qui commencerait peut-être par des citations. L'album de Tiger Rose, il a été cité par Soulbag comme une musique riche et prenante, un disque qui fera date. Blues Magazine a écrit « Musique authentique et parfaitement maîtrisée, un retour aux sources qui fait du bien ». Et Zika Zik a écrit « Un duo qui ne triche pas et qui donne le meilleur de lui-même sans aucun artifice ». Est-ce que tu valides toutes ces opinions de Soulbag, Blues Magazine et Zika Zik?
Alors après, c'est une question de goût. Si ça a plu, j'en suis très content. La dernière, disons que qui triche pas, et oui, ça je pense que c'est vrai. À nos vieux âges, on s'emmerde plus à être faux. On fait ce qu'on a à faire, et puis c'est tout. Si ça plaît, tant mieux. On en est très heureux. Si ça plaît pas, on continue quand même.
Est-ce que c'est parce que c'est compliqué d'être malhonnête, ou est-ce que c'est plus facile d'être soi-même?
Je sais pas en fait. Je sais pas comment on fait. Voilà. Mais c'est pas. Je dis ça sincèrement.
Oui, non, mais complètement.
Moi, toute ma vie, j'ai passé sur scène, Lorette depuis des années aussi. Et je pense que c'est à la fois une bonne séance chez le psy, une séance de sport, c'est tout en même temps, c'est nécessaire. Donc si on triche, ça sert à rien. Donc aussi bien pour soi que pour les autres, c'est pas très utile.
Ce que je te propose, Mig, c'est d'écouter un deuxième titre de cet album, puis on se retrouve juste derrière. On a choisi ensemble les extraits. Tout à l'heure, c'était Brown Eyed Woman, une de tes compositions. C'est également le morceau que tu mettais en plage 1 avec Loretta. Ça a été compliqué de choisir l'ordre des morceaux. Est-ce que c'était devenu évident de mettre celui-là en premier?
Je sais plus. Je m'en rappelle plus. Je pense que on l'aimait bien et puis on était à deux à chanter. L'important, c'était qu'on soit deux à chanter sur le premier morceau, je pense.
Voilà, ce qui n'est pas le cas partout. On poursuit avec Laying in the Cold. On se retrouve juste derrière avec Mick Tocro.
Ok.
Bon, alors, je crois que le gars qui s'occupe de la technique est viré. Ça serait mieux qu'on écoute ton disque, hein. On est bien d'accord. Extrait de cet album de Tiger Rose, l'album Boogie Blues and Roots. Nouvel extrait donc, et puis on va retrouver Mick Tocro, donc qui est le chanteur également guitariste de ce duo Tiger Rose. Voilà, toujours au téléphone, Mick Tocro.
Yep.
Voilà. Je voulais revenir sur le passé un petit peu, mais le temps d'une ou deux questions par rapport à tes influences. Tout d'abord, j'ai lu quelque part que tes débuts à 16 ans en musique, c'est une chose. Mais encore avant, il y avait des disques à la maison, mais pas des disques de blues, mais plutôt des disques de jazz. C'est ça, hein?
Oui, il y en avait pas mal. Il y avait du Django Reinhardt, Stan Getz, plein de choses.
Et alors, au moment où tu as commencé à pratiquer la guitare ou à te produire avec tes potes, est-ce que c'est d'abord ce style-là qui l'a emporté ou pas?
Non, pas vraiment. Mais j'écoutais un peu de tout, mais tout de suite ça m'a plu. J'écoute toujours du jazz, hein, ouais. Quasiment toutes les semaines. Hein, j'adore ça. Mais il y a une forme de liberté aussi. Au début, on ne comprend pas trop bien. Et puis finalement, quand on commence à saisir un peu le langage, c'est fabuleux, quoi. C'est un espace de liberté incroyable, jazz, quel qu'il soit, d'ailleurs.
C'est pas le même alphabet que le blues, pour toi, si?
Si, c'est exactement la même chose. De toute façon, moi, je fais pas trop de différence entre les musiques, mais plutôt entre les humeurs, on va dire.
Ouais. Bah justement, tu dis que tu écoutes beaucoup de choses différentes et ça m'amène à la question suivante. Si les étiquettes te laissent de marbre, le fait qu'on qualifie ta musique de Tex-Mex, d'Americana, de blues, de country blues, de folk, de rock'n'roll, tout ça, on peut le retrouver dans votre répertoire. Mais ouais. Est-ce que c'est pas important pour toi de catégoriser la musique? C'est les émotions qui comptent d'abord, c'est ça?
Oui, exactement. On a un groupe qui s'appelle Freegum Deros. On a un peu arrêté en ce moment, mais où on fait un mélange de country, Tex-Mex, blues, etc. Mais on ne s'est pas posé la question, est-ce qu'on mélange ou est-ce qu'on mélange pas, on le fait. Et puis de toute façon, c'est assez quand même, assez français de mettre des étiquettes, des catégories. Tu vois, au Texas, ils savent tout jouer. Tous les musiciens de blues connaissent les standards de country.
Bien sûr.
Ils connaissent les standards du rock'n'roll, ils savent jouer du rocksteady. Ici, on aime bien mettre dans des cases. Ça pose des problèmes, d'ailleurs, pour le...
Alors, quand tu dis ici...
Pour les concerts, après, parce ouais. que quand les gens ne savent pas mettre dans une case, ils ne savent pas s'ils peuvent te faire jouer. Et c'est un peu, ouais, c'est un peu un problème, mais bon.
Alors qu'en fait, comme tu coches plusieurs cases, tu devrais pouvoir être programmé dans des festivals complètement différents. C'est ça qui est hallucinant. Alors ça, c'est pour la France. Est-ce que tu qualifies ça... Est-ce que tu penses que c'est la même chose ailleurs, en Europe?
Non, pas du tout.
Ah,
non.
Ben voilà.
Non, au nord de la France, généralement, c'est... C'est bien ou c'est pas bien, voilà. Ouais. Et en général, les étiquettes. Après, il y a quand même quelques réseaux qui sont, par exemple, le réseau Rock'n'Roll 50s ou des choses comme ça. Mais dès que tu vas Hollande, Danemark, Suède, Norvège, Allemagne, il y a beaucoup moins d'étiquettes et ça se mélange plus. Et puis, je pense que c'est important d'avoir plein de choses dans sa propre culture pour évoluer, quoi.
Ça s'appelle la richesse, tout simplement, dans la culture. Mig, ouais. c'est ce que tu dis, c'est le langage d'énormément de musiciens que j'ai pu interviewer qui me disent la ouais. même chose. En France, on a un petit peu des œillères. Il y a les puristes du blues, il y a les puristes du jazz, ils ne peuvent pas se sentir, enfin, c'est hallucinant. Ouais. Dans le nord de la France, c'est un petit peu différent parce que il y a un esprit particulier. Enfin, moi qui connais un tout petit peu le nord, il y a les chapelles du blues, il y a l'influence de la Belgique qui est juste à côté. On peut parler de la Bretagne aussi, c'est une région à part quand même, la Bretagne. Tu la connais puisque tu joues avec Doudou Dou?
Oh oui, je la connais. Mais en Bretagne, c'est un peu la même chose. C'est bien ou c'est pas bien, quoi. Quand c'est bien, il y a du monde. Voilà, c'est pas compliqué.
Bon, ben voilà.
Mais bon, c'est pas aller les chapelles, les trucs. C'est normal qu'il y ait des gens aussi qui soient puristes ou qui... C'est... Moi, je trouve que tout le monde a sa place, il n'y a aucun souci là-dessus.
Voilà, je parlais.
Moi, en tant que musicien, j'aime bien être influencé par plein de choses, quoi. Puis quand c'est bien, voilà, c'est tout.
Alors, je parlais des chapelles tout à l'heure, c'était pas du tout les chapelles stylistiques, mais plutôt les chapelles blues, c'est-à-dire cette fameuse tradition du Nord qui consiste à organiser des concerts à la maison et faire venir des gens.
Non, mais c'est
simplement pour dire qu'il y avait deux sens au mot, et vraiment, les nordistes savent y faire. Enfin, il suffit de connaître un tout petit peu le festival Bécard, et puis de côtoyer des gens comme Frank Hortz, par exemple, pour savoir comment ça se passe, quoi. Et c'est vrai que chez nous en Normandie, c'est pas ça. Chez toi, à Bordeaux, a priori, non plus.
Non.
Non. écoute, on n'est pas.
Enfin, c'est encore différent. Parce que, pareil, toujours avec des assos comme Relâche où tu peux avoir des scènes l'été où tu peux avoir cinq groupes dont tu n'as jamais entendu parler. Et moi, je me rappelle une fois, Francis Vidal de Relâche nous a programmé avec Anthony en duo, avec notre duo Louisville. Donc, contrebasse, guitare, pure Mississippi blues. contribueuse. Et il nous a pris en première partie d'un des plus gros groupes de rock 70s du coin, Dacha Mandala. Et c'était super, quoi. Et voilà. Et tout le monde, ça a fait écouter du blues à ceux qui n'en écoutaient pas, ça a fait écouter du rock à ceux qui n'écoutaient pas de blues, et tant mieux, quoi.
Anthony Stelmazac, que tu viens de citer, qui joue avec toi dans Three Gamberos, qui joue dans Louisville aussi, et qui joue maintenant dans Country Pie. Tu connais Country Pie?
Oui, j'ai masterisé leur disque.
Eh ben voilà, tu fais plus que les connaître, effectivement, avec la chanteuse Zoé Koudounian. On a écouté ça tout à l'heure dans la radio.
Ouais,
excellent, excellent. Et puis c'est encore une fois une preuve supplémentaire qu'on peut décloisonner les musiques. Voilà.
Complètement.
Sur justement ce sujet des différents styles, j'ai noté Johnny Sansone parmi les musiciens que tu as accompagnés. Alors lui, il chante, il joue de l'harmonica, il joue de l'accordéon, il fait du cajun, il fait du zydeco, il fait du blues, il fait un peu de tout. Ouais. Tu l'as vu faire du rock'n'roll, tu l'as vu faire.
Il est de la Nouvelle-Orléans, quoi.
Ben ouais.
Ouais, je l'ai vu, j'ai surtout Johnny, j'ai pas beaucoup joué avec lui hein, parce qu'on a eu quelques dates il y a 2 ans, ça s'est très bien passé avec John Paul et avec un des grands chefs de la Nouvelle-Orléans, avec des tubes en Boudreau, c'était cool. Mais on avait surtout 2 tournées l'année dernière et j'espère une prochaine qui ont été annulées à cause du Covid, bien sûr. Mais Johnny, pour moi, c'est important parce que quand j'ai intégré Douzoudou en 98,
oui.
Un des premiers morceaux que m'ont fait travailler les frères jazz, c'est Just Say Yes de Johnny Sansone. Et j'étais un jeune bassiste qui avait 3 mois de basse et ça a été quelque chose, quoi. J'adore ce morceau. Et là, d'ailleurs, la première fois que j'ai joué avec lui, c'est le premier truc que j'ai dit. Que j'étais heureux de jouer avec lui parce que Just Say Yes, ça avait été important pour moi.
Eh ben voilà, ça c'est un beau club. Il y a d'autres garçons hein, qui sont du côté de Bordeaux et que tu as connu ou que tu continues à côtoyer. On parlait tout à l'heure du groupe Shake on Shake. Moi, je veux parler de Lupanis de l'époque qui continue toujours dans ce style Nouvelle-Orléans. Vincent Polivillard, Vince, tu continues à le fréquenter, à jouer avec lui de temps à autre?
Non, on joue plus ensemble depuis longtemps, mais chacun passe. On a joué ensemble très longtemps, hein, donc. On a fait un disque ensemble qui s'appelle Miguel Numat aussi, qui était bien.
Exactement.
Voilà, je continue à voir Fabio aussi, qui joue dans les Flying Saucers.
Mm-hmm.
Et j'ai un peu perdu de vue les autres.
Il y avait Nicolas Domenech.
Qui habite à la Nouvelle-Orléans, c'est Alain Baudry, le batteur.
Ouais, Alain Baudry, le batteur.
Avec qui je ne suis pas vu depuis longtemps. De Nicolas Domenech, c'est un excellent bassiste contrebassiste. Il est ingénieur du son aussi.
Mm-hmm. Il avait joué avec Nico Ventusa aussi, lui, non?
Sans doute, oui. Je ne me rappelle plus bien, mais sans doute, oui.
Alors, si on revient dans le passé un peu plus récent, en 2013, tu avais sorti un album qui s'appelait Down the Road, un 6 titres chez Iguan Records. Tu l'avais enregistré chez Roland Dubois, Roland Dubois notamment des Blues Fellows. Tu as un souvenir particulier de cet enregistrement en 2013? C'était ton premier seul album solo?
Je tentais quelque chose. Ça a été un peu avorté, j'ai fait 1 ou 2 festivals, mais je pense que j'étais pas prêt pour jouer solo. Aujourd'hui, j'en fais du solo.
Mmh.
Mais j'aime pas jouer tout seul en fait. Je m'emmerde tout seul. Voilà.
Mais même quand il y a du monde devant toi, j'ai envie de dire.
Oui, devant, mais c'est juste tout seul. D'abord, j'ai pas envie de jouer du blues quand je suis tout seul.
Ah bon.
J'essaie de faire. Je préfère chanter de la country ou des choses comme ça. Mais non, jouer tout seul, c'est pas une finalité pour moi. Je suis pas fait pour ça.
D'accord. Alors, on est bien
à deux, c'est déjà un groupe, quoi.
Ouais. Jouer tout seul en concert, on est bien d'accord. C'est la fameuse blague qui dit c'est chiant de regarder la télé, c'est encore pire quand on l'allume, quoi.
Exactement.
Hein. Alors, on va revenir sur l'album donc, qui s'appelle Boogie Blues and Roots. Quelle était l'idée géniale qui a présidé au choix de ce titre, Mig?
Je sais plus non plus. Mais je pense qu'on n'avait pas trop d'idées de titre. Et on a fait un peu de boogie, du blues, des choses. Assez roots, Boogie Blues and the Roots, quoi.
Vous n'aviez effectivement. Vous n'aviez pas trop envie de donner un des titres de morceaux.
C'est un premier album, donc à la limite, on voulait surtout concevoir la pochette comme une affiche de cirque, ou du moins comme quelque chose d'un peu burlesque. Donc c'était l'idée d'annoncer la couleur comme une affiche de spectacle.
Voilà. Donc,
je pense que c'était pas vraiment le but d'en faire un titre. C'était un premier album, donc Tiger Rose, c'était un premier album, quoi. Tiger Rose.
Donc vous avez axé le visuel sur la protection animale, on est bien d'accord?
Exactement.
Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des compos, il y a des reprises, mais par rapport aux compos, je voulais savoir s'il y avait des idées révolutionnaires, un message politique, des tranches de vie, qu'est-ce que c'est?
Non, mais moi j'écris des chansons sans me poser trop de questions. Je fredonne, et puis après j'écris, puis je vois ce que ça donne. Ouais, j'écris de plus en plus des choses personnelles, mais Il y en a quelques-unes sur celui-là, mais je sais pas. On mélange toujours avec des choses un peu fantasmées, avec des chansons qu'on aime aussi. Hein. Qu'on le veuille ou non, on pique à droite à gauche des idées, des façons de faire. Voilà, je me pose pas trop de questions. Moi. L'important, c'est surtout que ça donne envie de le siffler à la fin de la chanson. Voilà. Les paroles, ça vient après. Hein.
D'accord. Et quelle est ta façon de travailler ? Vous êtes deux, hein, Mick Tocro et Lady Loretta. Donc Loretta qui chante, qui joue de la contrebasse. Quel est son rôle dans le duo ?
Énorme. Sans elle, je pourrais pas faire tout ça, en fait. Parce que autant, la plupart du temps, c'est quand même moi qui écris les chansons, la grande trame. Autant elle, d'abord, c'est une très bonne arrangeuse des voix. Elle sait faire des choses que je sais pas faire avec la voix.
C'est un peu normal aussi. Hein.
Et voilà, elle a de très bonnes idées, on se complète bien. Et voilà, et au final, on arrange tout à deux. Et voilà, et puis elle me persuade que c'est bien quand je suis persuadé que c'est mal.
Ben là, on n'est plus dans le rôle de l'accompagnatrice, on est plutôt dans le rôle de la compagne ou de la femme du musicien, non ? Tu crois pas ?
Oui, mais c'est pareil. Hein. On s'engueule en tant que musicien, on s'engueule en couple et on rit aussi pareil. Hein,
Je ne veux rien savoir. Voilà. Tout ça. Les reprises. Alors, juste dernière question. Voilà, sur cet album, il y a des reprises, des traditionnelles, des choses de Red Burnside, Rolling Wolf. Lesquelles et pourquoi ? Pourquoi pas d'autres ? Pourquoi ceux-là ? Comment vous avez choisi, en fait ?
On n'a pas vraiment choisi, en fait.
C'est des morceaux
quand
que vous avez déjà...
Quand on a décidé de monter ce répertoire, on est parti de mon répertoire solo, en fait. Mm-hmm. Pour pouvoir commencer à jouer tout de suite. Voilà. Et on a fait quelques concerts avant d'enregistrer. Et à partir de là, on a vu ce qui marchait bien. Et là, j'ai commencé à écrire des morceaux. Et puis, Laurette a commencé à choisir aussi des reprises. Elle écoute énormément de choses, beaucoup plus que moi encore. Mmh. Et elle a eu, je pense, de bonnes idées de reprise. Et puis, quand elle a une idée dans la tête, elle la tient. Et elle m'a persuadé de faire certaines. D'autres, c'est moi qui en avais envie. Je sais pas. Ça se fait comme ça, quoi.
On a écouté la dernière fois dans l'émission Miss Maybelle. Tout à l'heure, on a écouté Blonde Red Man. Miss Maybelle de Earl Burnside. Tu l'as côtoyé, ce garçon, Earl Burnside ?
Non. Non, je l'ai vu à Paris au New Morning. Non. Ça fait pas partie des gens que j'ai côtoyés, des gens que j'adore, mais pas des gens que j'ai côtoyés.
Voilà. Et puis Frankie Lee Sims avec Lucy May Blues, alors lui, c'est l'ancienne génération. Ça fait partie de tes disques de chevet, de continuer d'écouter les créateurs, les géniteurs du blues, les pionniers.
Ah oui. J'écoute autant de vieux trucs que de trucs complètement neufs. Y a pas de... Je suis pas... Je rejette, ni je ne suis pas plus attiré par tel ou tel son. S'il y a des bruits de vinyle, ça ne me dérange pas. Et si c'est très clean et même avec des boîtes à rythme, je m'en fous. Moi. L'important, c'est que la musique soit bien. Mmh. Je sais que Lorette, pour elle, c'est pareil. Elle écoute autant de choses plus anciennes que de choses récentes. Et les pères fondateurs, comme tu dis, c'est important. Puis Frankie Lee Sims, j'adore ce morceau. Quoi. Je ne sais pas pourquoi il m'a marqué. J'ai toujours aimé ce morceau, je ne l'avais jamais joué. Alors, je me suis dit, pourquoi pas.
C'était important pour vous d'enregistrer un disque avec des morceaux déjà rodés sur scène ?
Oui, surtout qu'on n'avait pas le choix. On a démarré le groupe 3 mois avant de rentrer en studio. Voilà.
Mais alors pourquoi enregistrer aussitôt un album complet, une démo aurait pas
suffi ? Pour exister. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire de plus en plus de vidéos. C'est ce que les gens veulent en premier. Mm-hmm. Mais on doit passer par la case disque. Et faire un disque, ça fait partie d'un cercle vertueux pour de la promotion, de l'image.
Mais un 6 titres n'aurait pas suffi.
C'est obligé. Pardon ?
Un 6 titres n'aurait pas suffi.
Pourquoi s'arrêter ?
Oui, non, parce que, en fait, l'idée, c'est que, ben voilà, il fallait bien monter un répertoire rapidement, mais en même temps, ben, le temps presse et il faut faire connaître.
Après, moi, on a la chance de pas être pressé d'avoir un studio à la maison.
Ah, voilà.
Voilà, j'ai investi. On a prêté un studio. C'est Geoffrey, le Key Paper, qui m'a prêté le studio pour enregistrer ce Tiger Rose-là, le Blue Boogie Blues and Roots. Je l'en remercie aujourd'hui. J'ai mixé, j'ai masterisé. On a tout fait ensemble, la pochette, etc. Là, cette fois-ci, j'ai investi. On est à la maison, on a le temps. C'est un grand luxe.
Ah oui, voilà. Forcément.
De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut un peu rester à la maison. Mmh. Bah, autant, au lieu de regarder TF1, on enregistre, quoi.
Ben voilà.
Donc pourquoi s'arrêter à 6 titres?
Effectivement. Voilà. Avant-dernière question, Mig, avant d'écouter un dernier extrait de cet album qui s'appelle Boogie Blues and Rules, avant-dernière question à propos des invités. Juste en quelques mots, je te donne les noms des invités, puis tu me dis d'abord qui ils sont et pourquoi eux, et puis peut-être un ou deux mots sur eux. Alors, Jeffrey Lucky Pepper, d'abord.
Oui.
Alors, pourquoi... Pourquoi lui? Parce qu'il habite dans le coin, il a vu de la lumière.
Les invités?
Ouais.
Ah non, c'est les remerciements, tu parles. Ouais.
Purée.
Ils ne les ai pas invités, ils ne sont pas sur le disque.
Very hein. Special Thanks, alors effectivement.
Mais Geoffrey, comme je viens de te le dire, il m'a prêté son studio mobile pour enregistrer le disque.
Non, la question c'était effectivement en quoi est-ce qu'il mérite vos remerciements. Donc on a compris pour Jeffrey. Greg Isor, alors peut-être on en a parlé tout à l'heure.
Ouais. Il m'a aidé à. Comment dire il regarde un peu mes textes. Cette fois-ci, il a regardé un peu mes textes. C'était un peu dans sa branche. J'ai écrit pas mal de country, pas mal de choses, mais là, je suis vraiment retourné à quelque chose de très blues. Et j'ai demandé de les regarder, parce que le problème, quand on est français, en fait, même si on a un bon niveau d'anglais, c'est que parfois, on a tendance à écouter des chansons du monde entier. Mmh. Et quand on écoute des chansons en anglais, ben, une expression peut venir d'Angleterre, une autre peut venir du sud profond des États-Unis, l'autre du nord. On a l'impression que tout ça, ça colle, et pour eux, c'est comme si... Tout d'un coup, un Marseillais parlait avec une expression typiquement ch'ti, tu vois ce que je veux dire. Donc,
exactement.
Voilà. Mais, Greg a gentiment fait un check de mes chansons pour voir si tout roulait, quoi.
Tu me rappelles un ancien prof d'anglais qui venait de Marseille et qui disait « Mr. Loison, would you go to the Blackbird? Take a piece of chalk. »
Voilà.
Alexis Bardinet, qu'est-ce qu'il a fait pour le disque?
C'est, je pense, mon plus vieil ami. On avait 14-15 ans, on a commencé notre premier groupe ensemble et c'est un des meilleurs ingé-son de mastering au monde. Et il est à Bordeaux. Voilà, il masterise un tiers des disques qui sont écoutés partout en France, etc. Et il est à Bordeaux et il m'a aidé à faire mes premiers pas dans le son pour ce premier disque. Et il m'a donné son avis sur ce que je faisais au niveau des mixages et des masterings.
Bastien Cabzon, ou Cabzon.
Bastien, j'ai joué avec lui pendant longtemps. Batteur des Lightning Rockets, aujourd'hui batteur de Theo Lawrence. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est un de mes musiciens préférés. C'est un chanteur géantissime, arrangeur, ingénieur du son. Il a produit des titres là sur le nouveau. Je ne vais pas me rappeler de son nom. Chanteur de soul français, Ben L'Oncle Soul.
Voilà, d'accord.
Mais il fait plein de choses. Il produit des rappeurs. Voilà, c'est un garçon très prolifique qui a pas 30 ans. Et qui a un talent fou et qui, pareil, a jeté une oreille sur ce que je faisais et qui m'a donné son avis sur la façon de mixer les morceaux.
Et qui joue de la batterie avec les vieux briscards du blues, Hot Pepino, Raoul Ficelle et Calais.
Oui, on a d'excellents musiciens à Bordeaux. Il est souvent demandé, oui, forcément. Ouais.
On termine avec deux noms. Il y a Alain Pelletier, tout d'abord.
Alain Pelletier, c'est mon cousin. Il est photographe. Il m'a aidé à concrétiser certaines choses sur la pochette.
Et enfin, Dominique Tocro.
C'est mon père.
Ouais.
Je ne sais pas pourquoi je dois le remercier.
Ah ben moi, je pense savoir, mais bon.
Ben moi, je pense pour tout, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Il m'a aidé pour plein de choses.
Dernière question, Mig. D'abord, merci pour tout ça. Comment on peut se procurer le disque? Parce qu'il n'est pas forcément sur toutes les plateformes aussi.
Il est sur toutes les plateformes. Spotify, Deezer, iTunes, machin.
Très bien.
Sur mon site, migprod.com, on peut l'acheter en disque via PayPal. Et voilà, et le prochain est en route dans quelques mois.
Déjà. Donc on va peut-être se retrouver sur la route du blues ou sur les ondes par téléphone, je ne sais pas encore si on
sera... J'espère bien, on a quelques dates qui démarrent en juin, juillet, août, donc on espère que tout ça sera pas annulé, et puis on verra.
Avec grand plaisir, Mig, je te remercie pour tout ça, et puis je t'invite peut-être à réécouter, pourquoi il y a un podcast qui va se préparer sous 24 heures de cette émission. Un grand bonjour à Loretta, bien sûr.
Et puis
à très bientôt. Merci pour tout ça, Mig.
Merci à toi, Marco.
Au revoir.
Ciao.
Voilà, on poursuit avec un dernier titre, Tiger Hop, extrait de l'album de Tiger Rose.
We got a brand new dance for you. We call it the Tiger Hope. It's gonna make your whole body tremble and shake. But we ain't responsible for broken teeth or bones. So I hope you're ready. Are you ready?
Yeah!
Listen now. Shake it to the left.
shake it to the right. Shake your booty, beauty, come on. We're out of sight, we're gonna boogie. We're gonna boogie till the break of dawn. Ain't no shame, pretty mama. Let's do the tiger hoop. Tiger hoop, tiger hoop. Tiger hoop, tiger hoop. Ain't no shame, pretty mama. Let's do the tiger hoop. The weather's so cold, my mind's getting hot. Can boogie all night without a stop. We won't get caught, we gonna boogie. We gonna boogie till the break of dawn. Ain't no shame, pretty mama. Let's do the tiger hoop. Tiger hoop, tiger hoop. Tiger hoop, tiger hoop. Ain't no shame, pretty mama. Let's do the tiger hoop. Yeah, I see you shredded, folks. I think you're ready to boogie now. So we gonna boogie. Listen now.
Qui s'appelle Boogie Blues on Roots avec Mick Topro, qu'on vient d'avoir en interview en direct dans la radio, et Lady Loretta. Voilà donc cet album à vous procurer d'urgence sur toutes les plateformes et puis également sur le site migprod.com. Voilà, tout simplement. On revient au disque du mois et ensuite il nous restera peut-être un petit peu de temps pour écouter un dernier morceau. Voici Selwyn Birchwood, ça s'appelle You Can't Steal My Shine.
Too much anyway. You could take my money, Lord, to just buy some things. You could have my house, 'cause I'm always on the road. You could take my guitar, Lord, it's just wood and string. What time it is? You can take my job, 'cause I ain't got no benefits. steal my bed, love, cause I'm already woke. You can steal my wife, and I wish the best to you both. There's one thing you can't take, cause it's mine. Yeah, steal my shine. Steal my shine. Yeah, steal my shine. Steal my shine.
Voilà, extrait de ce fabuleux album qui s'appelle Living in a Burning House de chez Alligator Records. C'est le dernier Selwyn Birchwood qui sera disque du mois pour tout le mois de février. On se retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel invité, Michael J. Green. Ensuite, ce sera le 20 février avec Lenny Lafargue. Puis le 27 avec Christian Lightning E pour le deuxième tome de son interview. Et on se quitte avec une nouveauté Alligator de 2019. Et oui, c'est une nouveauté de 2019 parce qu'on l'avait pas encore écouté à l'époque de sa sortie. Je veux parler de l'album de Toronzo Cannon and the Chicago Way qui s'appelle The Preacher, The Politician or The Pimp, avec ce fabuleux titre qui s'appelle The Silence of My Friends. Et ben voilà, ça sera la dernière tranche de blues pour ce 1092e Sweet Home Chicago. Salut, bye bye.
Talk behind my back, and you sit there while they attack. Maybe you agree, don't know what to do. But when your back is turned, they say the same about you. I like it when people can get along, like understanding words to a song. When you know the truth, can't pretend. I don't like the silence of my friends. You talk about women like pieces of meat. You think I should laugh, but I can't agree. Wait a minute, brother, I don't go no further. About your mother. I like it when people